Le livre de Frog.
Roman, discussion, échange.
J'aime le bruit d'un livre qu'on ouvre pour la première fois.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
invité.
Nous sommes dans la réserve des livres rares.
Le livre de Frog.
Page. Marque-page.
Le livre de Frog.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Grenouille pour cette première émission du Livre de Frog. Le concept est simple, chaque mois, un invité vient nous parler pendant une demi-heure de son livre préféré. À l'honneur ce mois-ci, un turbulent silence dans des brinques. Et pour se mettre tout de suite dans l'ambiance du livre, on commence avec un extrait.
Le Livre de Frog.
Nos enfants sont le résultat de cette guerre incessante. Je ne les voulais pas. Cependant, en les ayant, deux garçons, j'ai acquis une nouvelle invulnérabilité. Ils ne sont pas de moi. Cependant, étrangement formés par mon corps, ils assurent mon indépendance par rapport à lui. Au début, cela restait stérile. J'ai pensé que je devais avoir une sorte d'amertume dans les entrailles, qui les empoisonnait et les tuait, et j'y trouvais du plaisir. Je croyais que les enfants assureraient sa domination sur moi, et dans le flot menstruel, j'affirmais une virginité farouche qui n'avait rien à voir avec le premier drap taché de sang qu'il avait pendu à la fenêtre et que seules les hirondelles et les aigles de la montagne avaient vu. Ma stérilité était exemplaire et fière. Je m'accommodais des regards anxieux de sa mère et des messes basses inquiètes de cet homme qui est maintenant mon beau-père. Je t'avais dit de prendre une femme grande et forte, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que vont devenir les Van der Mer ? Quand j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai été saisie de répulsion. Je refusais de l'accepter. Ce devait être une sorte de grosseur, une maladie. Tout en moi niait cet enfant. Il était le dernier devant qui je l'admettrais. Cependant, il devait avoir soupçonné quelque chose. À chaque fois qu'il pensait que je ne le voyais pas, il me regardait sans désir, ni colère, mais avec ce qui semblait être de la terreur. Puis il fait preuve d'une nouvelle douceur. Cela me révolta peut-être encore plus que l'arrogance et la violence. Cela me rappelait trop bien Nicolas. Je pouvais défendre contre la violence. La douceur était plus insidieuse. Quand j'étais seule, je me croisais les bras sur le ventre et j'essayais d'expulser par la force cette chose qui poussait dans mon corps, cette présence étrangère qui menaçait ma solitude de l'intérieur. Puis il y a eu la première tentative de mouvement, le léger frémissement d'un membre, le tremblement bref d'un pied ou d'un poing minuscule, et quelque chose changea. J'ai lutté comme si la dernière marque de ma liberté était en jeu, mais je savais que j'avais perdu. L'enfant était en moi et je le voulais. Je voulais cet enfant qui bougeait en moi avec plus d'acharnement que je n'avais osé désirer quelque chose depuis la mort de mon père. Quand je l'ai perdu, et c'était tellement inutile, tellement stupide, j'ai voulu mourir. Je savais pourquoi je l'avais perdu, parce que je l'avais trop désiré, comme d'autres choses que j'avais désirées auparavant. Mais cette fois, c'était pire. Le vide douloureux en moi n'était pas un retour à ce qu'avait été mon état normal, mais une confirmation de cette perte. Perdre ce qu'on n'a jamais eu marque plus qu'une douleur physique. C'est la mort du possible. C'est un resserrement de l'horizon, c'est une définition brutale du corps lui-même, une terre qui s'érode, une source souterraine qui s'assèche.
Bonjour Aurore Guitry.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans le Livre de Frog.
Merci.
Donc, vous êtes l'auteur de trois romans, dont le dernier est paru chez De Noël en 2013. Vous êtes également traductrice et nègre.
C'est ça.
Donc, vous venez de nous lire un passage de votre livre préféré, donc Un turbulent silence d'André Brink. Alors, peut-être un petit mot sur l'histoire de ce livre. C'est donc un très grand roman qui se passe dans le pays d'André Brink, l'Afrique du Sud, en 1824-25. Et c'est l'histoire d'une révolte d'esclaves. Nous avons une quinzaine de personnages, donc un roman très polyphonique. À un moment précis, peut-être, on peut préciser au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que les Anglais multiplient les lois, les premiers immigrés hollandais ont envie de faire justice eux-mêmes, de continuer à profiter de l'esclavage, les esclaves vont espérer des Anglais l'indépendance, donc ils nourrissent un espoir. Donc c'est à ce moment critique de l'histoire de l'Afrique du Sud que le roman se déroule. Ça n'a pas dû être évident pour l'auteur que vous êtes de choisir parmi tous vos livres préférés. Pourquoi finalement avoir jeté votre dévolu sur celui-là ?
Ça fait partie des... Enfin, Brink fait partie des auteurs qui me donnent envie d'écrire déjà. Parce que je trouve qu'il s'est très bien transporté ses lecteurs. Il sait très bien alterner entre justement le souffle avec plein de métaphores, d'images, etc. Et puis un style beaucoup plus incisif, beaucoup plus court, des phrases beaucoup plus simples. Et ce qui permet justement un rythme entêtant, puis on ne peut plus le lâcher là justement en vous disant que c'était mon livre préféré, je l'ai relu, ce qui m'arrive rarement. Et j'y ai pris vraiment autant de plaisir, voire plus, que la première fois que je l'ai lu.
D'accord.
Alors déjà, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie aussi d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais rebondir, moi, sur cet extrait que vous avez choisi, parce que je trouve qu'il est assez, justement, significatif de l'ambiance générale du livre. Et notamment, cette première phrase qui ouvre l'extrait que vous avez lu, qui est « Nos enfants sont le résultat de cette guerre incessante ». Et je voulais revenir justement sur cette guerre incessante qui parcourt tout le livre et qui, pour moi, n'est justement, et c'est là ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas seulement une guerre incessante entre les esclaves et les maîtres. Et cet extrait, pour moi, il est intéressant parce que le personnage qui parle à ce moment-là, c'est Esther, qui est, elle, fait partie des Blancs et donc est la maître, la noye de ses esclaves. Et pourtant, on sent cette violence dans cet extrait qui parcourt tout le texte et qui est justement pas forcément juste entre le maître et l'esclave, mais entre tous les personnages, que ce soit le mari, la femme, le maître, l'esclave, les enfants, les parents. Alors justement, voilà, qu'est-ce que cette violence, vous, elle vous a fait dans ce livre et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ben, déjà, a priori, je l'ai trouvé plutôt réaliste. Parce que j'imagine, enfin, je ne peux me borner qu'à imaginer, puisque je n'y ai pas vécu et que je connais peu l'Afrique du Sud, mais je trouve en tout cas que effectivement, ça semble assez révélateur de la situation dans laquelle pouvaient se trouver les maîtres aussi bien que les esclaves à l'époque, parce que bon, déjà les maîtres, ils arrivaient dans une terre qui n'était pas la leur ou qu'ils ne connaissaient peu. Esther, c'est la première génération d'enfants qui naît sur cette terre-là. Et elle doit y faire sa place, enfin, puisque c'est justement, elle appartient à cette terre dans la mesure où elle y est née, et en même temps, elle a vraiment l'impression d'être une intruse. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et par ailleurs, effectivement, le livre commence sur l'enfance de cette première génération, à la fois des esclaves et des Blancs. Et donc, je trouvais que cet extrait qui parle justement de l'enfance, et de l'enfant et de la conception de l'enfant, il pouvait être assez révélateur du rapport qu'entretiennent tous les personnages entre eux.
Voilà. Oui, il faut préciser que le roman est d'une amplitude vraiment remarquable, puisque nous prenons les personnages enfants, autant qu'ils soient esclaves ou maîtres, ils vivent ensemble. Et au fil du roman, eh bien, ce sont ces enfants-là qui ont des enfants. Donc c'est une vraie fresque historique. Par rapport à ce que disait Erika de la violence, mais aussi de l'enchaînement, finalement, l'extrait, c'est quand même Esther qui se sent enchaînée à son corps, enchaînée à l'enfant qu'elle porte. Comme vous êtes traductrice, je voulais rebondir sur le titre.
Ouais.
Finalement, le traducteur a pris pas mal de liberté. Le titre français est très joli, mais peut-être qu'on peut discuter du titre anglais. C'est A Chain of Voices. Alors, comment est-ce que vous l'auriez traduit, ou peut-être lequel préférez-vous du titre anglais ou français ?
Alors, bon, moi, j'aurais peut-être gardé quand même le titre anglais. Bon, peut-être qu'il existait déjà, hein, ça fait partie des prérogatives des éditeurs. Ils sont obligés de prendre un titre qui n'a pas encore été homologué. Donc j'imagine que ça faisait partie de ça. En revanche, justement, sur la couverture, on voit le rappel du titre, puisqu'on voit une chaîne qui évoque à la fois l'esclavage et peut-être le titre, justement, de cette chaîne de voix. Ce qu'il y a de pas mal dans le titre français, je trouve, dans le turbulent silence, c'est que c'est presque un oxymore. Oui. Et que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce livre qui est complètement oxymorique. Et en même temps, ce qui manque, c'est justement la polyphonie. C'est-à-dire que même si la turbulence fait penser à une forme de bruit de fond, de quelque chose d'indistinct, on n'a pas l'idée qu'on retrouve vraiment dans le livre, puisque chaque personnage prend la parole à tour de rôle. On perd cette idée justement et qui fait aussi, je trouve, la particularité et la beauté de ce livre, c'est que les personnages parlent à tour de rôle en fait. Donc, quand bien même un personnage nous est insupportable, on a toujours l'espoir, nous aussi, de retomber sur un personnage, par exemple, qu'on aura aimé davantage et du coup de retomber dessus.
Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai pas cette impression. Je comprends, je trouve qu'on ressent plus la polyphonie, justement, cet enchaînement de voix qui, à la fin, aboutit à un rien. Mais je trouve que dans ce turbulent silence, on le retrouve, mais un peu à rebours. C'est-à-dire qu'on comprend vraiment le titre, mais à la fin. Et justement, je pense que ça nous permettrait de rebondir un peu sur cette polyphonie, de dire, à un moment donné, on écoute tous ces personnages parler. Et ce qu'il en sort, ben, finalement, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est un silence. Et effectivement, un silence qui est violent et qui est turbulent. Donc justement, comment est-ce que vous avez vécu cet enchaînement de voix et comment est-ce qu'il ressort sur la fin de ce livre ?
Déjà, le livre, il se termine un peu comme il a commencé. Enfin, Brink, il fait souvent ça, c'est-à-dire qu'il aime bien les boucles. Et donc là, il boucle, si je puis dire, vraiment la boucle, puisque ça commence sur un acte d'accusation. Donc le lecteur sait précisément où il va, mais de façon très factuelle, très froide, très distante, pour ensuite donner un point de vue de ce qui s'est passé, en remontant à l'enfance des personnages, ce qui permet justement une identification plus facile. Enfin, on a toujours beaucoup plus de... On a tous été enfants, c'est le point commun qu'on a tous. Donc, commencer à l'enfance, c'est une bonne idée. Et il termine sur la fin de la lecture du procès, en fait. Enfin, le verdict. Donc, on reste sur... Enfin, moi, je ne sais pas vraiment si on peut dire qu'il y a vraiment, comment dire, une évolution entre le début du livre et la fin, dans la mesure où il commence par la fin. Enfin, pour moi, il n'y a pas véritablement d'évolution. Il y a chez le lecteur, l'évolution, elle se fait simplement chez le lecteur qui va apprendre le détail de ce qui s'est passé et pouvoir se faire son propre jugement. En fait. Et c'est ça justement qui est intéressant.
Oui, c'est vrai qu'il y a tout l'univers du procès, puisqu'on commence par un acte d'accusation, on finit par le verdict. Et entre les deux, finalement, Brink fait justice à ses personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, qu'ils soient maîtres ou esclaves, ils sont très très complexes. Voilà. Esther est très complexe, mais Nicolas également. Est-ce que vous, du coup, vous suiviez plus un personnage qu'un autre ? Vous attendiez le retour ?
Alors, Esther, je dois admettre que j'ai un petit faible pour Esther. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un extrait qui faisait partie d'Esther. Déjà parce qu'elle est très effacée, aussi bien dans la voix que lui prête Brink, puisqu'elle ne revient pas souvent. Et ensuite, parce qu'elle est toujours très mystérieuse, même du point de vue des autres personnages. Ils n'arrivent jamais à la cerner tout à fait. Donc du coup, on a envie d'en savoir plus. Et on part du principe que quand Brink va l'aborder de son point de vue à elle, là, le voile va se lever. Et finalement, on n'en apprend jamais complètement assez. Donc c'est vraiment le personnage, je trouve, qui tient le plus le livre. Moi, j'apprécie particulièrement celui-ci.
Alors, ce thème de l'esclavage, du renversement, du regard des auteurs contemporains sur des réalités et une histoire où on a eu tendance un petit peu à oublier la parole de ces personnages, c'est un thème qui n'est pas bien sûr exclusif à Brink et qui est même plutôt assez développé ces dernières décennies. Et du coup, on avait aussi envie d'aborder d'autres œuvres et d'autres... d'autres œuvres qui parlaient du même thème et on a tout de suite pensé à vous parler, déjà savoir si vous l'aviez vu, de ce film qui vient d'être oscarisé, donc 12 ans d'esclavage de Steve McQueen. Et justement, alors là on n'est pas en Afrique du Sud, on est aux États-Unis un petit peu avant la guerre de sécession, et ce film nous raconte l'histoire de Solomon Northup, qui est un noir libre, donc de l'État de New York, qui a été enlevé et soumis à l'esclavage pendant 12 ans. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre ces deux œuvres, le roman de Brink et le film de Steve McQueen. Et on voulait rebondir plus précisément sur quelque chose qui m'a particulièrement touchée dans les deux œuvres, c'est cette notion de survie, c'est-à-dire de survie et d'espoir, qu'on a d'ailleurs retrouvé, qu'on retrouve beaucoup chez Esther, et du début à la fin du roman. Et on voulait vous passer cet extrait de cette chanson qui passe dans le film et qui justement parle d'un fleuve qui coule et qui coule et qui représente justement ce besoin d'espoir et d'espérance qui parcourt les deux œuvres et cette nécessité. Donc je vous propose d'écouter l'extrait et puis on continue d'en parler après.
Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year of Jordan, roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll.
Everybody say,
roll, Jordan, roll.
Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll.
Alors, cette image du fleuve qui roule, qui fraye son chemin, quand on a lu Brink, ça nous parle beaucoup, puisque c'est quand même une des métaphores principales de notre auteur, qui, voilà, ce turbulent silence, cette rumeur qui gronde, cette révolte qui est en train de prendre forme. Brink la signifie très souvent par un fleuve souterrain qui va jaillir, etc. Et en même temps, ce fleuve, vous en parliez tout à l'heure, il est enserré entre un acte d'accusation et un verdict. Et on a l'impression que Brink glisse la littérature entre deux archives, deux documents officiels qui signifient la vérité. Et on a l'impression que Brink vient dire la littérature apporte sa vérité aussi. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous parle en tant qu'auteur ?
J'étais très admirative, justement. C'est là qu'on voit le travail de l'historien aussi. Enfin, c'est un universitaire. Il enseigne encore en Afrique du Sud. Et donc, on voit à la fois qu'il y a effectivement cette marge qu'est la littérature, qui permet de donner un sens à la réalité la plus froide qu'on puisse trouver. Qui peut être justement plus nuancé. C'est vraiment la nuance qui est très forte chez Brink. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit très vite que rien n'est tout noir ou tout blanc, mais plus souvent gris. Et que tous les personnages qui peuvent sembler a priori, par exemple, impitoyables ou au contraire trop fragiles, ont des raisons, leurs raisons, et aussi, ils ne les excusent pas, mais il leur donne vraiment une épaisseur très réaliste, je trouve, de ce point de vue-là.
Et je trouve justement, enfin, vous avez vu le film 12 ans d'esclavage,
ouais.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand on confronte les deux, qui traitent quand même du même thème, on peut justement voir à un moment donné ce pouvoir de la littérature qui est différent, enfin qui est différent de ce que peut être le cinéma, parce que enfin j'ai trouvé moi le film de les deux m'ont beaucoup fait réfléchir et m'ont vraiment remué intérieurement, mais dans le film c'est assez manichéen justement, ça reste assez hollywoodien, Brad Pitt qui vient sauver sur la fin qui vient sauver l'esclave forcé pendant 12 ans à ses dépens ou à ses risques et périls. J'ai trouvé justement moi que effectivement comme vous là résidait cette force de la littérature. Et je voulais savoir, voilà, vous, en tant que lectrice, c'est-à-dire auteur d'abord, mais en tant que lectrice, qu'est-ce que vous y trouvez dans cet enchaînement par rapport au film?
C'est vrai que j'ai vu évidemment le film. Enfin, j'avais très envie de le voir. Bon, déjà parce que c'est effectivement un thème qui m'intéresse. Et ensuite, parce que bon, on en avait quand même beaucoup entendu parler, donc ne serait-ce que par curiosité. Après, c'est vrai que la construction du film peut paraître un peu similaire, notamment sur le fait qu'il s'ouvre et se termine sur une respiration, et que le reste, c'est l'enfermement, l'esclavage, etc. Et que ça traite, enfin, de toute façon, quand on traite de l'esclavage, on traite en creux de la liberté. Moi, je trouve que c'est justement ce thème de la liberté qui est intéressant et encore tout à fait d'actualité. Parce que c'est le problème à partir d'où et de quand commence la liberté. Parce qu'il y a des personnages dans le livre, notamment Esther, par exemple, qui sont considérés comme des personnages libres, mais qu'ils ne le sont dans les faits absolument pas. Oui. Et c'était cet aspect-là des choses que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne traitent pas que du problème de l'esclavage, ils traitent aussi du problème de la liberté, mais d'un point de vue universel, vraiment.
Oui, et puis la grande question de ce livre, c'est comment on se libère de tout ça? Par quoi passe la libération? Et c'est vrai que vous avez choisi un extrait qui parle de l'enfance. Il y a beaucoup d'enfants dans ce livre, et ils sont, ou pas d'ailleurs, synonymes de libération. Pour Galant, l'esclave, pour Esther, ça se finit quand même sur cette idée de où se trouve l'espoir.
Mais c'est parce que c'est vrai que très souvent, enfin, dans l'enfant, on met tous nos espoirs déçus. Enfin, ça arrive très souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent des espoirs de leurs parents professionnels, sentimentaux, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un enfant naître, on se dit bon, ma vie se prolonge quelque part, et ma liberté s'ouvre. Enfin, une possible liberté s'ouvre, qui est sans doute illusoire en plus. Enfin, Brink, il met souvent un terme d'ailleurs à ce type de liberté-là. C'est-à-dire qu'elle est vouée à l'échec dans la mesure où justement l'enfant en lui-même est un individu à part entière et va lui-même s'octroyer ses libertés.
Alors sur le pouvoir de la littérature, il y a une anecdote quand même, c'est que André Brink a rencontré Mandela. Et c'était très intéressant de lire son témoignage. Alors je ne sais pas si vous le saviez. Mandela a lu Brink en détention. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, quand Mandela a été libéré, Mandela a eu un témoignage très fort par rapport à la littérature. Et lui a dit à quel point ses livres l'avaient aidé en détention et à quel point la littérature lui avait offert une liberté de l'esprit, même derrière les barreaux.
Et, il a dû être sacrément flatté.
Oui, et puis c'est vraiment une idée de la littérature qui est en effet impressionnante. Ouais. C'est vrai, et puis Mandela est mort cette année, donc cette dimension-là, elle vous plaît? Vous y croyez encore?
Ah ouais, non mais j'y crois tout à fait. Enfin, sinon, je pense que je ne ferais pas ce métier, ou en tout cas, j'y aurais renoncé. Je pense qu'effectivement, enfin, la grande force de Brink, en plus, ce livre est un peu long, enfin, il fait 500 pages, mais je ne veux surtout pas dissuader, je veux plutôt encourager les auditeurs à le lire. Parce que c'est justement, il nous accompagne. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé un peu les gros livres. C'est parce que pendant plusieurs jours, on a une sorte d'univers parallèle, de monde parallèle dans lequel on va pouvoir expérimenter d'autres choses, vivre d'autres choses. Et c'est vrai que c'est une liberté, pour le coup. Une grande liberté, une deuxième porte, en fait, qu'ouvre la littérature.
Simplement, moi, je voulais réagir justement sur ce pouvoir de la littérature avec lequel j'étais... je pense qu'on est on œuvre tous un peu ici dans cette cabine pour ça. Et ça m'a fait penser à un texte de Carlos Fuentes que j'ai lu, un écrivain mexicain, qui s'appelle « À la louange du roman » et qui justement définit, dans ce texte, il définit le roman comme espace de l'ambiguïté. Et il dit justement que la littérature questionne ces vérités historiques et que c'est le lieu où on a le droit de ne pas avoir de vérité. Et justement, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de littérature comme espace de l'ambiguïté ?
Bah, surtout dans la fiction, enfin, dans le cas de la fiction, effectivement, quand ce n'est pas du documentaire, ou du document plutôt, ou des essais, etc., y a, où on réclame quand même une certaine forme de vérité. En littérature, on a quand même une liberté, une ouverture beaucoup plus grande. Maintenant, on part toujours d'une forme de réalité, on part toujours d'une forme de vérité. Donc c'est là où la difficulté pour l'écrivain va être de trancher et de savoir quelle part de vérité il va garder et quelle part de fiction il va laisser. Mais là-dessus, je pense que Brink est particulièrement fort, pour le coup.
Alors, je ne voudrais pas faire le maître du temps, mais on s'approche progressivement de la fin de cette émission. Et on voulait la finir par une petite chronique aussi, parce qu'on parle de ce livre qui vous plaît tant. Et on s'est dit aussi peut-être que vous avez, peut-être que d'autres ont envie d'avoir aussi d'autres conseils. Donc, nous sommes allés voir un libraire marseillais qui nous a conseillé quelques livres. Et Élodie va vous en parler.
Oui, nous sommes passés ce matin à L'Odeur du Temps. Donc, on a attrapé quelques conseils avisés. En littérature française, eh bien, L'Odeur du Temps nous a parlé de Palais à volonté de Mika Birman, qui est publié chez POL. Et en littérature étrangère, eh bien, on vous conseille le roman de l'américain Howard McCord, qui s'appelle En marchant vers l'extrême. Voilà, qui est auteur américain trop peu traduit et qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui. Et un dernier petit conseil, l'apparition du nouveau numéro d'une merveilleuse revue qui s'appelle La Femelle du Requin, revue de littérature et cétacés. Elle se présente comme ça, qui est donc consacrée à deux auteurs majeurs d'aujourd'hui, Christian Garcin et Xavier Hanot, avec deux entretiens à la clé dont La Femelle du Requin a le secret. Voilà. Bonne lecture.
Bonne lecture.
Et merci beaucoup.
Merci, merci à Aurore. Vous, Aurore. Et puis au mois prochain, on espère.
Voilà.
J'aime le bruit d'un livre qu'on ouvre pour la première fois.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
invité,
page.
Marque-page.
Nous sommes dans la réserve des livres rares.